Eh bien, bonsoir, puisqu'au beffroi de l'Internet, en fait, eh bien, il annonce que c'est l'heure. Donc, c'est avec grande joie d'accueillir Jean-Baptiste Brenet, qui est grand spécialiste d'AveroS. Et c'est vrai que, bon, c'est un personnage qu'on connaît, on connaît le nom, mais je pense que ça mérite largement qu'on approfondisse cet extraordinaire personnage. Donc, grand merci à Denis Guénoun qui nous a proposé votre conférence. Et donc, on est très reconnaissant de vous entendre sur ce sujet, dans ce groupe donc philosophie et théologie, qui fait un peu la passerelle, qui cherche à réconcilier ces deux pôles, ces deux dimensions essentielles de la recherche. Donc, merci pour ce chapitre que s'annonce pour moi passionnant.
Merci. Et Jean-Baptiste, que nous sommes heureux d'accueillir, Marc et moi aujourd'hui, nous sommes heureux de l'accueillir pour des raisons différentes, parce que je crois que Marc et Jean-Baptiste se voient ce soir pour la première fois, et nous deux, on se connaît depuis, on l'a compté tout à l'heure, c'est 21 ans, donc on s'est rencontrés à Strasbourg, et Jean-Baptiste était au début de la brillante carrière qu'il mène depuis, et qui l'a conduit à s'intéresser de très près aux questions de philosophie médiévale en général, sur lesquelles il a publié plusieurs ouvrages et de très nombreux articles, mais en particulier à la place qui occupe AveroS et l'avéroïsme. Jean-Baptiste, qui est aujourd'hui professeur d'histoire de la philosophie arabe à la Sorbonne, à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, a publié, pour citer des publications récentes ou imminentes sur la question qui nous occupe, un livre qui s'appelle « AveroS, l'inquiétant », qui est publié aux Belles Lettres et qui date de 2015. Et un livre, je crois qu'il existe matériellement, mais il ne sera en librairie que dans quelques semaines, au début de l'année 2017, qui s'appelle, d'un titre insolite, « Je fantasme », et d'un sous-titre qui l'est un peu moins, « AveroS et l'espace potentiel », et qui paraît chez Verdier, début février, si je ne me trompe. Voilà, j'ai proposé à Marc que nous accueillions ce soir Jean-Baptiste, parce que, en travaillant sur le programme de notre année, je me suis rendu compte du fait que AveroS était très significative de cette relation paradoxale entre, et peut-être naturelle à d'autres égards, tu nous le diras, entre philosophie et théologie, cette relation qui nous occupe ici. Et il est vrai, comme Marc vient de le dire, que c'était particulièrement stimulant d'entendre quelle place pouvait occuper là-dedans un philosophe dont on parle de plus en plus, et qui est un philosophe arabe, musulman, si je ne dis pas de bêtises, tu nous le diras. Et comme l'esprit de l'oratoire, pour autant que je le comprenne ou que je le reçoive, c'est un esprit d'extrême ouverture et d'attention à ce qui nourrit la réflexion en général, ça nous a semblé, à Marc et moi, bienvenu que d'avoir la présence de Jean-Baptiste ce soir. L'amitié aidant, ça s'est fait sans difficulté. Donc je te remercie aussi, à mon tour, beaucoup. Et la séance sera organisée en principe à peu près comme les précédentes. Jean-Baptiste devrait parler autour d'une quarantaine de minutes à peu près. Et puis après, nous parlerons pendant trois quarts d'heure ensemble des questions qu'il aura soulevées. Merci Jean-Baptiste, à tout de suite.
Merci. Merci à tous, je suis très, très touché, très heureux de votre accueil. Donc, je remercie Marc Pernaud, je remercie Denis, il a rappelé... mon ami depuis 20 ans et dont j'admire véritablement le travail et l'écriture. Donc je suis très heureux d'être auprès de vous ce soir. Je vais vous parler assez librement d'AveroS et de la question chez lui de la philosophie et de la théologie, donc je ne lis pas de papier, alors vous excuserez le caractère peut-être un peu décousu de ce que je vais vous dire si je perds le fil, mais j'en retrouverai un, quoi qu'il arrive. Donc quelques données d'abord biographiques. AveroS, c'est le nom latin d'un homme qui a comme nom en raccourci Ibn Rushd. Il est arabe, je vais vous expliquer en quel sens, mais on pourrait dire d'abord qu'il est andalou, puisqu'il naît à Cordoue au XIIe siècle. C'est un penseur du XIIe siècle, un penseur qui naît dans l'Andalousie musulmane, à l'époque où l'Andalousie s'appelle Al-Andalus. Pour vous donner un ordre d'idée, il est le contemporain, pour penser à des auteurs latins, d'Abélard. Il est le contemporain d'Alain de Lille, de Jean de Salisbury, bref, des grands noms, non pas encore de la scolastique, parce qu'elle n'est pas née. Nous sommes à peu près 100 ans avant la floraison des grands génies de la scolastique que sont Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Bonaventure. Mais il est dans le contemporain de ce XIIe siècle qui, en Europe, voit déjà, qui connaît déjà un grand essor urbain et voit apparaître des grandes figures de la pensée occidentale. Il naît en 1126 et il meurt en 1198. Continuer avec quelques dates, c'est un homme qui va connaître une carrière assez brillante, de haut dignitaire de l'empire qu'il va servir, car Averroès est le contemporain d'un bouleversement, d'un changement de dynastie dans l'Andalousie de l'époque, puisque les Almoravides, qui dirigeaient la région et que servaient son grand-père et son père, les Almoravides sont renversés par le pouvoir almohade. Et Averroès va faire toute sa carrière au service du pouvoir almohade. Hein, le terme d'almohade, c'est le terme français, disons, francisé, d'un terme arabe, hein, les muwahidoun, qui veut dire les unitaristes, les unitariens, les défenseurs de l'unité ou de l'unicité de Dieu. Et ces almohades s'emparent de renverse l'empire almoravide à peu près en 1147, donc lorsque Averroès a une vingtaine d'années. Donc il va servir le pouvoir car Averroès a pour fonction principale d'être juge. C'est comme cela que l'histoire d'abord le connaît, le retient. Il est juge et pas un petit juge de province, il sera grand juge de Séville, et grand juge de Cordoue, comme son père et comme son grand-père. Juge de Séville, ce qu'on appelle Cadi, en 1169, donc il a 43 ans, et grand juge de Cordoue, une dizaine d'années plus tard, en 1180. Mais pour vous indiquer à quel point sa vie est la vie d'un haut dignitaire de l'État, 2 ans après sa nomination comme grand juge de Cordoue, en 1182, il sera nommé médecin personnel du prince. Il remplace un autre philosophe qui est démissionnaire, un philosophe important sur lequel je passe ici, et il sera donc à la fois juge et médecin du prince, et cela jusqu'à sa mort en 1198, après, à la fin de sa vie, une petite période d'exil, d'une année environ, qu'on explique assez difficilement, avant d'être rappelé par le souverain à Marrakech, où il s'éteint donc 2 ans avant le passage au XIIIe siècle. Donc voilà quelques renseignements sur quelques dates pour le situer. Le contexte, je l'ai dit, c'est un changement de dynastie, c'est l'empire almohade qu'il sert, lequel empire a eu pour guide, pour inspirateur, un homme, un berbère, qui s'appelait Ibn Tumart, et qui a produit une idéologie nouvelle, en estimant que l'islam avait été dévoyé par l'empire précédent et qu'il fallait le restaurer dans sa pureté. Et c'était un pouvoir fort, militairement conquérant, et c'est ce pouvoir qu'Averroès, comme le grand notable qu'il était, issu d'une famille assez célèbre, va servir. Bon. Quelles étaient ses autres fonctions ? Averroès, en effet, n'était pas seulement juge, ni seulement médecin. Et il n'est pas très facile de savoir à l'époque, d'ailleurs, ce que la fonction de médecin recouvrait exactement. Il était aussi juriste, c'est-à-dire qu'il a écrit des textes d'ordre juridique, il a écrit sur la loi, et il a produit des textes juridiques, certains étant extrêmement célèbres. Son grand-père, lui aussi, était juriste, et jusqu'à aujourd'hui, dans l'islam contemporain, on y fait référence. Il était donc juge, médecin et juriste, puis philosophe. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que philosophe à l'époque signifie, mais la première chose à savoir, c'est que philosophe ne correspond à aucun statut officiel. Le philosophe n'est pas un métier, dans l'Andalousie de l'époque, on est philosophe à titre privé, c'est-à-dire qu'on donne des cours à quelques élèves chez soi ou à la mosquée, mais il n'y a pas l'équivalent de ce que seront les universités occidentales. Donc il était philosophe et ce qu'il a rendu célèbre comme philosophe, c'est d'avoir été le commentateur d'Aristote. Averroès a écrit un certain nombre de textes, des textes d'ordre juridique, des textes d'ordre médical et des textes personnels, au moins trois, mais la plus grande partie de sa production a été consacrée à l'exégèse de l'œuvre d'Aristote qu'il lisait en arabe. Aristote avait été traduit du grec en arabe, souvent en passant par le syriaque, et c'est à cet Aristote altéré, traduit en arabe, qu'Averroès avait affaire, et c'est cet Aristote qui l'a inlassablement tâché d'expliquer. Je dis inlassablement parce que effectivement, dès sa vingtaine jusqu'à la fin de sa vie, il n'a cessé sous différentes formes de le commenter, dans la première partie de sa vie en fournissant des résumés, ce qu'on appelle des épitomées ou des petits commentaires, dans la seconde partie de sa vie, des commentaires moyens, qui sont plutôt des paraphrases, et dans la dernière partie de sa vie, des grands commentaires, qui sont des commentaires ligne à ligne, parfois presque mot à mot, du corpus d'Aristote. Il l'avait presque tout d'Aristote, certains textes manquaient, comme la politique, ce pourquoi il a commenté ce qu'il avait à la place, à savoir un résumé de la République de Platon, ce qui donne une allure un peu étrange dans son œuvre, puisque tout Aristote y est, sauf ce commentaire de la République de Platon. Bien. Donc les écrits sont très nombreux, ils ne sont pas très faciles d'accès pour le public qui veut les lire, parce que tous ne sont pas encore édités de façon critique, et tous ne sont pas traduits en langue moderne, ni en anglais, ni en italien, ni en allemand, ni en français. Et puis un certain nombre de textes n'existent pas dans l'arabe d'Averroès. Donc j'insiste sur cette langue arabe, parce qu'au fond, c'est cette langue, cette dimension-là qui nous permet de classer Averroès comme un penseur arabe. Il n'est pas ethniquement arabe. Et au fond, dans la grande catégorie de la philosophie arabe, on range des gens de provenance très diverses. Ibn Sina, Avicenne, par exemple, l'autre grand nom de la pensée arabe était perse, iranien, par exemple, lorsque Averroès, je le répète, est andalou. Donc ces gens-là ne sont pas ethniquement arabes, mais ce qui fait leur socle, le socle commun, c'est la langue de production du savoir. Avicenne écrit aussi en persan, Averroès ne connaît que l'arabe, ne cherche pas du tout d'ailleurs à apprendre le grec, il ne connaît évidemment pas du tout le latin, ni l'hébreu, et il écrit en arabe, et c'est donc à ce titre qu'on parle de lui comme d'un penseur arabe. Est-ce que c'est un penseur musulman? J'en dirai une chose tout à l'heure. Il est certain en tout cas qu'il est musulman, au sens où il considère que le Coran est le texte sacré qui dit la vérité, qu'il prie, qu'il va à la mosquée, et qu'il vit dans une cité dont le socle est l'islam. Alors, il se trouve que Averroès est intéressant non pas seulement pour ces quelques repères historiques que je donne, mais parce que c'est une sorte de figure, une sorte de personnage qui a connu un destin tout à fait extraordinaire, qui le singularise dans l'histoire de la pensée. Pour le situer dans cette histoire, je dirais qu'il y a deux points de vue qui le rendent important. D'abord, un point de vue qu'on pourrait dire arabe, ou qui le place dans l'histoire gréco-arabe. Averroès est important parce que c'est l'un des derniers venus dans cette longue histoire de la pensée, dans cette déjà longue histoire de la pensée gréco-arabe. Je veux dire que avant Averroès, il y a eu au moins Ibn Sina, Avicenne, qui est mort au XIe siècle, Al-Farabi, qui est mort au Xe siècle, Al-Kindi, au IXe siècle, puis tous les penseurs néoplatoniciens, puis tous les penseurs néo-aristotéliciens comme Alexandre d'Aphrodise, IIIe siècle, Thémistus, IIIe siècle aussi, IVe siècle ensuite. Donc Averroès est vraiment l'héritier d'une histoire prodigieuse qui s'est livrée, non pas seulement à l'exégèse d'Aristote, mais qui a produit une quantité de savoir considérable visant à expliquer l'intégralité du monde. Donc de ce point de vue, il est remarquable parce que quand vous le lisez, vous trouvez en lui comme une caisse de résonance de cette histoire de l'humanité où les concepts les plus puissants n'ont cessé de se développer, de se croiser, de s'articuler les uns aux autres pour donner les grands systèmes dont toute la modernité n'est que l'héritière. Mais il y a une autre raison qui rend Averroès fondamental, c'est que cet homme va très rapidement être traduit en hébreu et en latin. Et non seulement il va être traduit en hébreu et en latin, mais lui qui va quasiment disparaître de l'histoire arabe, non seulement de l'histoire orientale, qui en réalité ne l'a jamais véritablement connu, mais de l'histoire occidentale pour des raisons historiques, puisque la reconquête ayant lieu, l'empire des Almohades va s'effondrer. Et si Averroès a eu quelques descendants, quelques disciples, notamment son fils et son petit-fils, quelques adversaires qui, en le critiquant, vont encore faire écho à son œuvre, globalement, l'œuvre d'Averroès est sans postérité marquante, passé le XIIIe et le XIVe siècle en Occident. En arabe, pas en hébreu et pas en latin. Puisque très tôt, on va traduire ses commentaires d'Aristote en hébreu, ses commentaires moyens, et on va se servir de ses commentaires moyens pour faire court, puis on va traduire ses grands commentaires en latin pour tâcher de comprendre cet Aristote gigantesque qui revenait en Occident après des siècles de disparition, qui nous livrait comme une explication totale de l'univers, mais qui demandait, pour être compris, des lectures d'appoint que fournissait, mieux que d'autres, Averroès. Donc il faut bien mesurer une chose. Averroès meurt en 1198, en 1225 à peu près, soit 27 ans, vous voyez, 25-30 ans après sa mort, à Paris, une grande partie de ses commentaires d'Aristote arrive traduit en latin. C'est un point tout à fait remarquable, rare dans l'histoire, et on n'a pas trop le temps de développer, mais il faut se rappeler que cet homme qui arrive, dont les œuvres arrivent traduites en latin, s'impose parce que il est commentateur d'un Aristote que l'Occident ne connaissait pas dans son intégralité jusqu'à cette époque-là. J'ai parlé tout à l'heure d'un Abélard ou d'un Jean de Salisbury ou d'un Alain de Lille. Entre ces gens-là du XIIe siècle qui sont à Paris et un Thomas d'Aquin qui arrive à Paris 50 ou 60 ans plus tard, il y a un monde de différence parce que cela tient au corpus qu'affrontent et que lisent les uns et les autres. Thomas d'Aquin, en 1250 à Paris, a affaire à la quasi-totalité d'Aristote. Sauf que cet Aristote, pour vous qui faites un peu de philosophie peut-être et qui l'avez ouvert, vous savez combien il est difficile pour nous aujourd'hui, c'était la même chose à l'époque, et c'est dans Averroès, grâce à lui, par lui, que l'Occident latin, je ne parle pas du monde hébreu aujourd'hui, que l'Occident latin va faire ses armes en quelque sorte et tenter de comprendre ce qu'Aristote proposait. Lequel Aristote s'impose, hein, pour des raisons aussi accidentelles puisque Platon n'était pas là, s'impose comme le philosophe par excellence. Bon. Alors c'est très important de comprendre cette sorte de chiasme, tandis que l'Averroès arabe disparaît de l'islam occidental, l'Averroès traduit en latin va s'imposer dans les universités, et cela pour des siècles, comme le commentateur d'Aristote. Lorsque vous lisez les textes latins médiévaux, parfois le nom d'Averroès n'apparaît même pas, vous lisez « commentator », le commentateur, là où pour Aristote, vous lisez « philosophus », le philosophe. Cela suffirait à parler d'Averroès aujourd'hui. Cela suffirait parce que, d'une certaine manière, je le répète, c'est dans Averroès, avec lui, que l'Occident a fait ses armes pour comprendre Aristote. C'est avec Averroès que l'Occident, en quelque façon, a appris à commenter. La pratique de l'exégèse philosophique, c'est avec Averroès que l'Occident l'a mené. Et cela, sur des siècles, avant que la modernité ne rompe ou ne prétende rompre avec l'époque médiévale. Sauf que la singularité de cette figure qu'est Averroès ne s'arrête pas là. Puisque cet homme que tout le monde va lire, tout le monde, tous les théologiens vont lire Averroès, tous. Parce que même les théologiens, disons comme un Bonaventure, plutôt hostiles à la philosophie, tous, compte tenu de leur génie, de leur intelligence supérieure, tous ne se sont pas privés d'étudier la philosophie, en quoi ils voyaient une simple propédeutique, fût-ce pour la mettre à bas, en pièces. Et étudier la philosophie, c'était passé par les commentaires d'Averroès. Donc tout le monde l'a lu, tout le monde l'a respecté d'une certaine manière comme un excellent exégète, mais sur certains points doctrinaux, sur certains points théoriques, dans certains passages du corpus, la lecture a bloqué. Ça a coincé parce que les commentaires qu'Averroès produisait ont fait scandale. Et quand je dis cela, je pense à un champ particulier qui est le champ de la psychologie, tout ce qui concernait l'âme humaine, et donc tout ce qui concernait ce qu'Aristote avait écrit sur l'âme. Comme vous le savez, Aristote a écrit un traité sur l'âme. Et cet Averroès qu'on lisait, qu'en quelque façon on utilisait au point d'avoir même plus besoin de le citer, cet Averroès, sur l'âme, en psychologie, a produit un certain nombre d'exégèses qui, là, ont fait scandale, et cela pour des siècles, c'est-à-dire, on pourrait dire, jusqu'au XIXe siècle. Les thèses qui ont fait scandale, elles sont trois, je l'ai dit très vite, c'est que Averroès, au nom d'Aristote, prétend qu'il y a une seule intelligence pour toute l'espèce humaine, que cette intelligence est séparée des corps individuels, et que cette intelligence n'a ni été créée et ne s'annihilera pas, c'est-à-dire que nous sommes tous précédés d'une intelligence unique qui, tous, nous survivra. Donc, Averroès, soit, mais sur la question de la psychologie, Averroès le commentateur devient Averroès le maudit. Le commentateur devient le dépravateur de la philosophie d'Aristote, et une sorte de Satan, de démon, de secrétaire de l'enfer, en ce qu'il produisait un système qui concernait l'âme humaine, c'est-à-dire la chose la plus importante du monde, qui revenait à détruire la rationalité de l'individu. Puisque s'il y avait une seule intelligence pour tous, eh bien il n'y avait plus d'intelligence individuelle, plus de morale, plus de politique, plus de rétribution des biens, plus de menaces possibles, plus de châtiments envisageables. Eh bien, tout le système s'effondrait, aussi bien philosophique, visant à sauver la rationalité de l'individu, disons ce qu'on appelait à l'époque la personnalité, c'est un concept qui naît, qu'au point de vue théologique. Donc cet Averroès-là, si fondamental pour l'Europe, disons d'un terme assez vague, pour l'université européenne, ne va cesser d'être lu et ne va cesser en même temps, dans une attitude presque schizophrénique, d'être condamné et de la façon la plus violente qui soit. Chacun se renvoyant au visage l'accusation d'avéroïsme. Si on suit, je parlais du XIXe siècle, jusqu'au XIXe siècle, la réapparition de ce fantôme avéroïste, de cette attaque avéroïste, de cette dénonciation de l'avéroïsme, eh bien, on est étonné de voir combien elle se déplace, combien elle remplit de fonctions diverses, puisque Kant, par exemple, est attaqué d'avéroïsme, Spinoza est attaqué d'avéroïsme, Luther est attaqué, est taxé d'avéroïsme, et fortement d'ailleurs, Luther lui-même taxant d'avéroïste d'autres personnes, les catholiques, c'est-à-dire la scolastique pour lui. Bon, bref, on a toujours été dans l'histoire l'avéroïste d'un autre, si vous voulez, à tel point qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, Averroès, dans l'histoire, c'est la figure de l'altérité, ce qu'il s'agit absolument de rejeter. De fait, si on fait le compte, je le répète, hein, de ces figures-là, on est vraiment étonné. Averroès, c'est évidemment l'arabe, évidemment le musulman. Vronin parlera de cet arabisme dont Averroès est le porte-étendard. Ou alors c'est l'inverse. Averroès, c'est l'impie, c'est l'incrédule, c'est le préfigurateur des libertins du XVIIe siècle, c'est l'athée, c'est l'hypocrite, puisque lui qui ne croit pas et qui considère que toutes les religions sont des fables, fait mine de croire en société, c'est l'homme qui défend ce qu'on a appelé la double vérité, c'est-à-dire l'existence, et c'est cela qui vaudra à Luther d'être taxé d'avéroïste, l'existence d'une vérité selon la foi et l'existence d'une vérité selon la raison. Mais Averroès, c'est aussi pour certains un préfigurateur des Lumières, parce que c'est celui qui défend une sorte de rationalisme intégral dans la pensée. Bref, il a servi à tout, Et c'est, il n'existe pas encore de livre, si vous voulez, qui fasse le compte de cette figure-là qui a traversé l'Europe sous des masques fort divers. J'en viens à notre objet du jour, la question chez lui de la philosophie et de la théologie. Et pour cela, je dois préciser un petit peu les termes. Je vous ai dit qu'Averroès était philosophe, et que pour lui, être philosophe, ça n'est pas exercer une fonction du même ordre que celle de juge, mais cela correspond au commentaire inlassable d'Aristote. Averroès, on peut dire qu'il est un représentant de ce qu'on appelle la falsafa. Falsafa, ça n'est pas un terme arabe, même si c'est, ça s'écrit en arabe, ça n'est rien que la translittération arabe du mot philosophia grec. Averroès fait partie, dans ce vaste champ qu'est la pensée arabe, de ce qu'on appelle la falsafa, et qui est donc une pensée écrite en arabe d'origine hellénistique. Donc c'est celui qui se place dans cette lignée des penseurs grecs que sont Platon, Aristote et les néoplatoniciens Plotin et d'autres. Lorsqu'en face, on pourra, notamment en Orient, parler plutôt de sagesse. Le terme utilisé à ce moment-là sera plutôt en arabe « hikma », qui signifie « sagesse », qu'emploie aussi Averroès pour son propre compte, parfois par stratégie, parce que « hikma » est un terme qui parle à tout musulman, qui parle à tout arabe, c'est un terme du Coran, le Dieu du Coran est dit « sage »,« hakim », mais, pour être plus rigoureux, le terme qui vaut pour désigner l'activité que pratique Averroès, c'est celui de « falsafa », c'est-à-dire, je le répète, une activité qui consiste, à l'aide d'Aristote principalement, à expliquer le monde dans son intégralité, du premier moteur à la matière, aux éléments fondamentaux, en passant par la cosmologie, puis les vicissitudes du monde sous la lune, c'est-à-dire le monde non seulement humain, mais celui de la génération et de la corruption. Voilà ce que signifie faire de la philosophie pour Averroès, c'est-à-dire l'étude de tous les étangs, du Dieu, moteur de l'univers, jusqu'aux choses les plus viles, rien n'étant séparé en vérité de l'ensemble. S'agissant de la théologie, la chose est un petit peu plus difficile. Il y a évidemment une théologie qu'on pourrait dire rationnelle, une théologie philosophique, c'est-à-dire un discours sur Dieu tenu par la raison du philosophe. Comme vous le savez, à propos d'Aristote, on parle de théologie pour désigner, dans son livre Lambda, les chapitres 6-9 qui parlent du premier moteur de l'univers. Aristote se soucie assez peu du Dieu ou des dieux, mais il en parle en philosophe dans sa métaphysique, dans le livre 12, et tout philosophe qui commente ce livre 12, qui explique que Dieu est le premier moteur du monde et que tous les étangs de ce monde sont orientés vers lui comme les amants sont orientés vers l'aimé, tous ces philosophes-là, eh bien, font d'une certaine manière de la théologie en ce sens philosophique. De ce point de vue, il y a bien une théologie d'Averroès, ô combien, puisque rien ne s'explique dans l'univers qui ne passe par la détermination de ce qu'est ce premier moteur. Mais lorsqu'on parle de théologie d'une façon moins philosophique, mais historiquement plus importante peut-être à l'époque d'Averroès, alors on parle de ce qu'on appelle le kalam. K-A-L-A-M, allons. Le kalam, c'est un mot arabe qui veut dire parole et qui désigne la théologie musulmane. Il y a des discussions très intéressantes pour savoir si l'on peut strictement superposer le kalam, c'est-à-dire la théologie musulmane, et la théologie qui sera pratiquée au XIIIe siècle dans l'Occident latin. S'agit-il exactement de la même pratique ? Un Thomas d'Aquin est-il l'équivalent d'un théologien musulman adversaire d'Averroès? Probablement pas. Ce kalam a une histoire longue déjà à l'époque d'Averroès. Il naît au 8e siècle à peu près et il va se distinguer en plusieurs sectes, plusieurs groupes. Le groupe qui domine l'Espagne à l'époque d'Averroès étant le groupe des Acharites. Je vous le prononce sans mettre d'accent, les Acharites, ce sont les disciples d'un penseur qui s'appelait Al-Ashari, qui est mort au Xe siècle, qui avait fait scission par rapport à une secte précédente, et qui a mis en place une théologie spéculative qui va devenir majoritaire dans l'islam occidental. Donc l'acharisme, c'est vraiment la théologie sunnite, c'est-à-dire la théologie dominante, et c'est cette théologie-là qui imprègne, qui domine le monde dans lequel Averroès naît et dans lequel il va avoir à intervenir. Alors qu'est-ce que c'est que cette théologie? Comment fonctionne-t-elle? Lorsque vous prenez des traités de théologie du Kalam, ils ont à peu près tous la même structure, c'est assez intéressant d'ailleurs. Il y a quelques prolégomènes logiques et métaphysiques, puis on en vient à l'essentiel, qui est la question de l'existence de Dieu, on démontre son existence, la question de son unicité, la question de ses attributs ou de ses autres attributs, puis la question de ses actes. Lorsque vous lisez ces textes-là, vous avez affaire à une haute spéculation, très difficile, assez belle, subtile, avec des positions qui n'ont rien à envier à bien des traités, on pourrait dire, strictement philosophiques. Il se trouve que les acharites qui dominent donc l'Espagne, qui est celle d'Averroès, ont un certain nombre de positions tout à fait radicales et identifiables en théologie. L'une de leurs positions célèbres, c'est leur physique d'abord. Les acharites sont des atomistes. C'est-à-dire ils considèrent que le monde est constitué d'atomes, c'est-à-dire de ces réalités minimales qui n'ont en elles-mêmes aucune qualité. Et que Dieu, à tout instant, qualifie ces atomes et les arrange, les agrège, comme il le veut, autant qu'il le veut. Pourquoi y a-t-il une physique atomiste? Vous le comprenez assez vite, on le comprend bien. C'est parce que le meilleur pour penser la toute-puissance de Dieu, c'est une physique atomiste. Précisément, là où le monde n'a en lui-même aucune consistance, aucune qualité, là où le monde est simplement atomique, champ libre est donné à un Dieu tout-puissant de l'organiser à tout instant comme il le veut. Bon. L'autre thèse très célèbre des acharites, qu'on retrouvera d'une certaine manière chez un Malebranche au XVIIe siècle, c'est de considérer qu'il n'y a pas de causalité seconde dans le monde. C'est-à-dire que les étangs, qui par eux-mêmes n'ont aucune nature, ne sont dotés d'aucun pouvoir causal. C'est-à-dire que c'est Dieu à tout instant qui fait tout. L'exemple très célèbre donné par les acharites, c'est celui d'un bout de coton. J'approcherai de ce bout de coton une flamme, le bout de coton s'embraserait, eh bien, disent les acharites, ça n'est pas moi qui ai brûlé le coton, ça n'est pas la flamme non plus, d'ailleurs ça n'est pas moi qui ai bougé mon bras, bref, tout cela, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a mu mon bras, Dieu a fait que la flamme s'est allumée, Dieu a fait que le coton s'est embrasé, Dieu est l'agent de chacun de ces actes dont on pourrait penser qu'il me revenait en partie. À l'époque de Averroès, le penseur acharite le plus célèbre, est encore très célèbre aujourd'hui, si vous allez dans les librairies musulmanes, c'est l'un de ceux qui occupe le plus grand rayon, c'est Al-Razali. Al-Razali était un penseur qui est mort en 1111, quelques années avant la naissance d'Averroès, un penseur absolument génial, prodigieux, polygraphe, soufi, philosophe, anti-philosophe, théologien, anti-théologien, il a été un peu tout à la fois, il a un parcours assez varié. Il est célèbre dans l'histoire parce qu'il a écrit contre Avicenne, le grand philosophe de l'époque, un Tahafut al-Falasifa, ce qui veut dire la destruction des philosophes. Et Averroès est célèbre pour avoir écrit contre lui un Tahafut al-Tahafut, c'est-à-dire une destruction de la destruction. Alors, cela nous amène assez vite au point que je voulais vous exposer, à savoir que s'agissant de cette théologie-là, eh bien, Averroès en est résolument l'adversaire. Il considère que le drame de son époque, et d'une certaine manière, il sollicite le pouvoir pour que le pouvoir l'aide à régler le compte de ces théologiens-là, le drame de son époque est d'avoir laissé trop de champ à ces théologiens acharites. Il y a un problème aussi avec le droit dont je ne parle pas aujourd'hui, mais ces théologiens-là sont dangereux et il faut faire appel au pouvoir, le pouvoir dans ce qu'il a de politique et de militaire, pour d'une certaine manière les faire taire. Et Averroès n'est pas seulement de ce point de vue un commentateur d'Aristote, et c'est un homme aussi qui va essayer de produire quelque chose comme un contre-calame, si vous voulez, une théologie alternative. Puisqu'il ne s'agit pas simplement de détruire cette théologie, on va comprendre pourquoi, il s'agit d'en proposer une autre et de ne pas se contenter des commentaires d'Aristote qu'on peut établir dans le petit groupe de travail qui se fait chez soi. Alors, pourquoi ces théologiens-là sont dangereux? On pourrait dire que c'est un jeu de mots qui est employé très souvent dans bien des domaines, mais que pour Averroès, si vous voulez, la théologie est une affaire bien trop sérieuse pour la laisser aux théologiens. Les théologiens sont des gens dangereux, ces théologiens-là, pas toute théologie, et certainement pas la religion, j'en dirai un mot pour conclure. Les théologiens sont dangereux parce que ce sont des hommes trop intelligents, si vous voulez, pour faire comme la foule et s'en tenir à la lettre du texte sacré, mais pas assez intelligents pour comprendre véritablement ce qu'il s'agirait de démontrer. Averroès, comme tous les penseurs arabes, est partisan d'un partage anthropologique assez fort entre l'élite et la foule. Tous les penseurs arabes disent ça. Il faut distinguer entre l'élite et la foule. L'élite, c'est ce qu'on pourrait appeler, en pensant à Platon, ils le font eux-mêmes, le naturel philosophe. Ce sont les gens, pour le dire vite, les plus intelligents, leur intelligence tenant, évidemment, à leur vivacité intellectuelle, leur capacité de comprendre vite, de comprendre plus, et de démontrer bien sur la base des bonnes prémices. Au fond, être philosophe, pour, à l'époque d'Averroès, ça consiste à savoir faire des syllogismes démonstratifs. Ça consiste à avoir parfaitement assimilé l'organon d'Aristote et à savoir choisir les bonnes prémices, à les enchaîner correctement dans des propositions rigoureuses pour arriver à des conclusions apodictiques, indubitables. Bon. Il se trouve que cette capacité-là, qui s'exerce, qui tient à un naturel, certes à une bonne nature, demande du temps, de l'étude, un bon enseignement. Il ne s'agit pas du tout d'illumination, il ne s'agit pas d'un don qu'on aurait et qu'il ne s'agirait pas de faire fructifier, mais cela tient non pas seulement à notre intelligence, cela tient à l'état de notre corps. Parce que pour un penseur comme Averroès, c'est l'un des aspects qui en fait véritablement un aristotélicien, il n'est pas d'acte d'intelligence qui puisse se passer du corps. Je suis intelligent à proportion de la qualité de mon corps, puisque je ne pense que sur la base de ce que me fournit l'expérience de mon corps. Donc, mieux se porte mon corps, mieux je pense. Donc, le philosophe, l'élite, c'est ceux qui pensent bien, c'est ceux qui pensent juste, ceux qui savent démontrer, mais ça commence avec l'état de leur corps, l'éducation de leur corps, et l'éducation de leurs habitus. Bon, il se trouve que certains n'ont pas ces qualités-là. Ça tient à des complexion physique en général et cérébrale aussi. Si vous êtes trop aqueux au niveau cérébral ou si vous êtes trop sec, eh bien votre mémoire sera instable ou trop dure et qui n'a pas de bonne mémoire, par exemple, ne peut pas bien concevoir. Bon. Alors, il y a ceux qui, malheureusement, c'est ainsi, l'humanité est ainsi faite, n'ont pas ce naturel philosophe. Et dans la foule, on doit distinguer deux groupes. Le groupe le plus bas, le vulgaire véritablement, mais dans la bouche d'Averroès, évidemment, ce sont des mots assez durs, mais ça n'a pas de connotation péjorative. Ce vulgaire-là, ce sont ces hommes qu'Averroès appelle les hommes de rhétorique. Ce sont les gens qui ne peuvent se représenter les choses que de façon rhétorique et qui ne peuvent assentir à leur représentation que de façon rhétorique. C'est le bas peuple, ce sera le peuple concerné par la religion elle-même, qu'Averroès, je le répète, ne dénigre absolument pas. Au-dessus d'eux, il y a les hommes de dialectique, et ce sont les théologiens. Les théologiens font partie de la foule, ils sont certes supérieurs aux hommes de rhétorique, ce sont des hommes de dialectique, c'est-à-dire des hommes capables de raisonner, capables de produire des syllogismes plus évolués que le point de vue immédiat de la foule, du style... Il y a un rôdeur, c'est un voleur, par exemple. Voilà un non-raisonnement caractéristique de l'homme de la foule. Donc les dialecticiens raisonnent, mais ils raisonnent mal. Ils pensent mal, ils pensent de travers. C'est-à-dire que leurs prémices ne sont pas bonnes, et toute l'énergie qu'ils emploient à produire des conclusions sur la base de ces prémices et compte tenu de leur intelligence débouche sur des doctrines qui ne sont pas satisfaisantes. Pourquoi Averroès les attaque ? Il les attaque alors même qu'il reconnaît que ces gens-là, d'une certaine manière, ne peuvent pas faire autrement qu'ils font. C'est-à-dire que si je suis un homme de rhétorique, je ne peux assentir qu'à ce que mon imagination me donne comme image. Je ne peux pas faire autrement que ce que mon corps me conduit à faire, soit. Mais ces gens sont dangereux parce qu'ils ne se contentent pas, ces théologiens-là, les acharites, d'une certaine manière de syllogiser, de dialectiser entre eux. Le tort, le grand tort de la théologie, selon Averroès, c'est de se divulguer, c'est de chercher à convaincre la foule. Au fond, raisonner mal, c'est une chose, mais vouloir diffuser son mauvais raisonnement, c'en est une autre, très grave, et très grave en soi, et très grave en islam, parce que celui qui produit de l'infidélité est lui-même un infidèle. Pourquoi les théologiens produisent de l'infidélité ? Parce que, dit Averroès, ils sont assez forts, encore une fois, pour démonter ce qui, dans la religion, ne tient pas bien. Il y a évidemment des choses dans le texte sacré, dans tous les textes sacrés, qui sont instables, qui sont fragiles, et dont on peut facilement montrer qu'elles sont incohérentes. Soit, cela, les théologiens le peuvent. Donc, ils ont la capacité immédiate de faire douter le peuple. Peut-être pas le peuple absolument au plus bas de l'échelle, mais quelqu'un de suffisamment éveillé pourrait trouver dans la parole théologienne une occasion de remettre en cause ce à quoi il croyait. Sauf que ces gens-là n'ont pas le moyen de produire, de rebâtir une croyance. Ils n'ont pas les moyens de donner ce en quoi il faudrait croire compte tenu de son naturel. Donc ce qu'ils font, ce qu'ils laissent, les théologiens, c'est une sorte de terre brûlée, une terre d'hébétude, on pourrait dire, où les croyants sincères ont perdu leur foi, et sans rien en retour. Et la conclusion de ce désordre, c'est un désordre social. C'est-à-dire le risque que fait courir cette théologie-là à la société, c'est la distension du lien, c'est que les hommes ne sont plus tenus par la religion. Il se trouve que, pour Averroès, toutes les religions sont vraies, et toutes les religions sont bonnes. Mais l'islam est la meilleure des religions, elle arrive en dernier, d'une certaine manière, elle a technicisé au maximum ce qu'il y a de vrai dans la religion. Et le caractère extrêmement encadré de l'islam convient beaucoup à Averroès parce que c'est précisément là qu'est tenue la société. Or, une société qui n'est pas tenue est une société qui condamne à mort l'humanité parce que Averroès est tout à fait convaincu, c'est l'une des choses qui le singularise par rapport aux autres penseurs andalous de l'époque, il est tout à fait convaincu qu'il n'y a pas de destin possible, il n'y a pas de réussite possible pour l'homme en dehors de la société. Il faut absolument que la société soit stable, que la cité fonctionne bien, pour que l'humanité atteigne son but, à savoir l'intelligence. L'homme se caractérise par l'intellect, ce qui fait la réussite de l'homme, c'est la production de l'intelligence. Une cité est d'autant meilleure qu'elle produit d'autant plus de philosophie, sauf que elle ne peut produire d'autant plus de philosophie, c'est-à-dire d'hommes à donner complètement à l'étude et à la pratique de la contemplation, que si l'ensemble de la société est bien ordonné. Ce qui ordonne l'ensemble de la société, c'est la religion, et c'est cette religion que vient menacer la théologie, qui, au fond, produit des thèses qui ne sont absolument pas satisfaisantes. Par exemple, sur la question de la nature de Dieu, de la place de Dieu, des actes de Dieu, de la liberté de l'homme, toutes les conclusions théologiennes sont à peu près fautives. Bon. S'agit-il de condamner, je vais terminer là-dessus, s'agit-il de condamner la religion ? Absolument pas. Il faut complètement distinguer la religion, en l'occurrence, c'est l'islam, mais je le répète, toutes les religions, à des degrés divers, sont bonnes. Il faut distinguer cette religion de la théologie mal pratiquée par les acharites. La religion n'est rien que l'expression pour la foule de la vérité que le philosophe saisit par la raison. C'est la grande thèse qu'évidemment bien d'autres partagent, qu'Averroès défend dans l'une de ses fatwas célèbres, le discours décisif, où on lui demande de déterminer quelle place revient à la philosophie dans l'islam, quelle place revient à l'acte de philosopher au regard de la charia? Est-ce que c'est une activité qui est permise ou est-ce qu'elle est condamnée? Si elle est permise, est-ce qu'elle est simplement recommandée ou est-ce qu'elle est obligatoire? Et Averroès répond, au regard de la charia, la philosophie est une activité obligatoire pour ceux qui y sont aptes. Ceux qui ont un naturel philosophe peuvent être assurés que l'islam n'est pas contre eux, mais au contraire, les encourage et les oblige même, à la mesure de leur intelligence, à pratiquer la philosophie. Et, dit Averroès, nous pouvons être sûrs, si ce que je dis est vrai, que religion et philosophie n'entrent pas en contradiction. Au contraire, il y a une forme de circularité, en ce sens que pour qui lit bien le Coran, la philosophie y est appelée, les hommes de science sont appelés à exercer leur science, et qui pratique la philosophie sera capable de vérifier l'intégralité du Coran. Vérifier l'intégralité du Coran, et d'une certaine manière des autres textes sacrés, cela consiste, grâce à l'interprétation que seuls les philosophes peuvent faire, à retrouver sous la lettre du texte des conclusions strictement conformes aux conclusions de la raison. Vous voyez que pour Averroès, le cœur de tout, le socle de tout, c'est la rationalité. C'est-à-dire que la conclusion que la raison me donne ne bougera jamais. C'est un point intangible. Si je démontre par ma raison correctement ceci, alors de cela je ne pourrai jamais bouger. Le but n'est donc pas de faire varier la démonstration philosophique, mais de savoir interpréter le texte sacré. Et Averroès nous assure qu'aucun verset du texte sacré ne peut être lu sans qu'on y retrouve, quand on connaît l'arabe, quand on connaît la grammaire arabe, sans qu'on retrouve exactement la conclusion de la raison. Il n'y a donc aucune contradiction, dit Averroès, entre une démonstration philosophique et la parole sacrée. Simplement, la contradiction n'est que littérale, elle n'est qu'apparente. Et cela tient au fait que le texte sacré, dans la providence de Dieu, a été adressé certes à tous, mais dans le souci du plus grand nombre. Or le plus grand nombre, c'est la foule. Voilà pourquoi le Coran est écrit sous forme rhétorique. La forme rhétorique du Coran tient au souci de Dieu, le premier moteur de l'univers, de se faire comprendre de la foule. Mais la chose très importante est de comprendre que ce à quoi la foule croit, en lisant et en entendant littéralement la parole sacrée, n'est pas autre chose que ce que la raison du philosophe démontre. C'est la même chose, c'est le même monde, simplement présenté, dit, exposé, représenté sous une autre forme. Donc il y a une seule vérité, et non pas deux, mais diverses voies d'accès à cette vérité. Et la cité dont Averroès a besoin, c'est une cité qui permet aux philosophes de vivre, qui permet, si je puis dire, de produire du philosophe, non pas pour que, égoïstement, une petite élite profite de cette structure pyramidale de la société, mais parce que une société qui ne s'achèverait pas sur la philosophie, laquelle en vérité est impersonnelle. Le philosophe n'a plus de nom, le philosophe n'a plus de corps. Dans la tête du philosophe, c'est l'humanité qui s'accomplit. Donc si cette pyramide ne s'achevait pas sur de la philosophie, eh bien l'humanité elle-même n'aurait pas de sens. Voilà pourquoi Averroès conclut son texte en disant que philosophie et théologie, mais bien comprises, la vraie théologie, celle que lui promeut, et non pas cette théologie des théologiens charites, philosophie et théologie sont des sœurs de lait, et il utilise le terme arabe d'ittisal, de connexion, il faut absolument les joindre l'une à l'autre, et voilà ce qu'il écrit au pouvoir, comprenez-moi, vous avez raison de m'appuyer, voilà la vraie théologie alternative qu'il faut défendre, et c'est à ce prix que le pouvoir vainqueur que vous êtes sera capable de bâtir une cité dans laquelle, une sorte de république, si vous voulez, platonicienne, une cité dans laquelle, enfin, nous n'en sommes pas loin, dit Averroès, enfin, l'humanité trouvera sa pleine floraison, son plein accomplissement. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste, merci. Alors, selon ce qui commence à se construire comme notre usage mensuel, donc la discussion est ouverte. Madame.
Si l'intelligence universelle est éternelle, l'humanité ne peut pas s'accomplir, elle ne peut pas rejoindre cette intelligence, ça arrêterait le temps. Enfin, moi, je parle en termes très prosaïques.
Oui. Non, mais c'est une vraie bonne question, parce que c'est une question très difficile d'ailleurs, parce que si l'intelligence est éternelle, et que Averroès croit à ce qu'on appelle le principe de plénitude, c'est-à-dire le principe qui dit qu'aucune puissance ne peut rester non accomplie. Donc toute puissance doit s'accomplir. Donc si ce qui caractérise l'humanité, c'est la puissance de penser, et que l'homme est là depuis toujours, sa puissance de penser s'est depuis toujours accomplie. Donc d'une certaine manière, l'œuvre est déjà faite. Donc l'intelligence n'est jamais un horizon complet, au sens où il s'agirait de faire quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais la question de l'histoire, la question du rapport au temps de l'humanité, effectivement, se pose. Aussi, la question d'ailleurs de l'histoire, au sens où que signifient les prophéties et la suite des prophéties dans l'histoire, si l'humanité est là depuis toujours et que depuis toujours elle a atteint son but. À quoi sert le prophète? Alors c'est une question, une excellente question en vérité, très difficile. Et on peut se demander si ce que Averroès, s'il n'y a pas une forme de menace quand même sur l'humanité, au sens où le but que l'humanité atteint toujours, toujours, quoi qu'il arrive, elle l'atteint plus ou moins bien. Et que ce qu'il s'agit de viser, c'est une sorte d'efficacité maximale, à la fois dans son extension et puis dans son efficacité de moyens, de cette œuvre qui a toujours déjà lieu. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de temps dans la philosophie et d'histoire dans la philosophie d'Averroès. On se demande à quoi sert l'histoire et à quoi sert le temps qui est devant nous. On pourrait se reposer sur la réussite d'ordre métaphysique.
Alors c'est intéressant parce que c'est nos prochaines séances. Donc là, celle de janvier, là on est à celle de décembre, contrairement à ce qu'il peut sembler, en fait, de séance de décembre. Celle de janvier, ça sera sur le temps chez Augustin, et celle de février, ça sera sur l'histoire et la révélation, en fait. Donc c'est tout à fait autour de ces questions.
Oui, monsieur.
D'abord, je voulais vous remercier, c'était extrêmement clair et très didactique, c'était excellent de comprendre de façon synthétique. Je voulais revenir un petit peu sur l'histoire, ce que vous disiez des philosophes, parce que dans ma connaissance qui est extrêmement modeste, de tout ce qui est la philosophie, le potentiel, de ce qui est la racine de l'islam, mais il me semblait quand même qu'il y avait, aux sources du Coran, il y avait quand même beaucoup de toute la philosophie Alexandrie et autres qui étaient quand même très néoplatoniciennes, qui étaient platiniennes. Il y avait cette notion justement, vous avez parlé d'unicité, qui est le grand thème du XXIe siècle, hein, le tabou de l'unicité de Dieu, qui est quand même le 1, c'était quand même le fondement de la philosophie platinienne, si je me souviens bien de la cour de terminale. Et donc la question c'était un petit peu, qu'est-ce qui en est justement de cet héritage néoplatonicien, de Plotin, qui dans la connaissance est encore dans le courant, et justement ce qu'Averroès a comme lecture, qui est justement une lecture aristotélicienne, qui semblait tout à fait autre.
Alors, ça n'est pas par le coup, vous avez raison, ça n'est pas par le Coran qu'il faut poser la question du néoplatonisme, ça c'est une autre affaire. Le néoplatonisme de Plotin et de Proclus a eu une influence considérable dans la pensée arabe, pour une raison simple, c'est qu'une partie des Énéades, 4, 5, 6, a été traduite en arabe, réaménagée, et une partie des éléments de théologie de Proclus ont été aussi traduits en arabe. Le tout a circulé sous un titre bizarre qui s'appelait la théologie d'Aristote. Donc pendant des siècles, avec d'autres lettres, d'autres petits textes, mais enfin, s'agissant de Plotin, ça s'est appelé la théologie d'Aristote. Donc pendant des siècles, les Arabes ont eu affaire à un texte en arabe intitulé la théologie d'Aristote, qui évidemment était du Plotin. Alors, le néoplatonisme, du coup, a évidemment imprégné la pensée arabe très tôt. Al-Farabi, par exemple, que Averroès a sur sa table lorsqu'il travaille, défend un système émanatiste de type plotinien, et le jeune Averroès, lui-même, sera émanatiste, avant de rompre avec cela. Donc, on ne sait pas bien comment le néoplatonisme qui s'est manifesté très tôt dans la pensée arabe, a circulé jusque dans l'islam occidental. En Orient, c'est très net. En Occident, c'est moins net. On n'a pas de traces exactes de textes néoplatoniciens sinon par ces grands auteurs-là, mais qu'Averroès aurait pu avoir en main lui-même. Bon, reste que le parcours d'Averroès, tout à l'heure je parlais de miracles, il s'est passé ceci qui était miraculeux, etc., comme si tout était, enfin plutôt le hasard plutôt que le miracle, comme si il a eu Aristote plutôt que Platon, c'était le fruit du hasard, soit, ça n'est pas faux dans l'histoire, mais il se trouve qu'à un moment donné, Averroès a tout de même fait un choix d'ordre théorique. Et le jeune qu'il était, influencé par ses premières lectures néoplatoniciennes, a clairement tranché lorsqu'il a eu affaire à d'autres textes, lorsqu'il a pu confronter ses lectures de jeunesse avec le texte d'Aristote qu'il lisait, et il a pu trancher clairement en faveur de l'aristotélisme, ou d'une forme de néo-aristotélisme. Donc il y a du néoplatonisme chez lui, c'est sûr, mais certaines positions néoplatoniciennes sont clairement condamnées par lui comme n'étant pas conformes au système vrai qu'est le système d'Aristote. Et ce que lui prétend retrouver dans le Coran, c'est la pensée aristotélicienne, qui s'appelle aristotélicienne, mais qui est tout simplement, à ses yeux, la vérité. Aristote est un homme extraordinaire parce qu'il a su penser le vrai. Donc ça n'est pas un homme contre un autre homme, c'est l'homme du vrai contre des systèmes égarés. Mais donc ce qu'il lit, lui, dans, ce qu'il lit dans le Coran, lorsqu'il l'interprète, c'est l'aristotélisme impur, hein, parce que ça, évidemment, ça n'est pas l'Aristote tel que nous le lisons en grec. Mais en tout cas, un Aristote, autant que possible, purgé du néoplatonisme dont il ne veut plus passer les 35-40 ans.
Pourquoi est-ce qu'il ne veut plus justement ce néoplatonisme ?
Pour des raisons théoriques, parce qu'il considère que un certain nombre de thèses du néoplatonisme sont fausses et ne correspondent pas, ne donnent pas, repose sur des principes qui ne tiennent pas, une mauvaise physique, un certain nombre de concepts défaillants, et que, à l'inverse, lorsqu'on lit Aristote, on se rend compte que lui produit la bonne explication du premier moteur, lui produit la bonne explication du mouvement céleste, lui a une juste compréhension de la providence divine, de la liberté humaine, etc. Donc, si vous voulez, confrontant texte à texte, système à système, évidemment, il opte pour ce qui lui paraît démontré, lorsqu'en face, c'était d'abord l'autorité de ses maîtres qui prévalait. Mais c'est très net. Hein. Si vous lisez l'épitomée sur la métaphysique d'Averroès, il est émanatiste. Et il le dit parfois dans ses textes, il dit « j'ai été abusé, au fond j'ai suivi mes premiers maîtres sans lire Aristote, et c'est une erreur. » Donc c'est un aristotélisme de plus en plus pur, autant que faire se pouvait, qu'il a essayé de produire.
Et ce lien entre le Coran et Aristote, on le voit parce qu'il a fait de l'exégèse du Coran, ou est-ce que c'est dans l'exégèse d'Aristote qu'il va citer le Coran et faire cette jonction, en
fait ? Alors ça aussi, c'est très intéressant. Moi, j'essaye en ce moment de faire le compte de toutes les citations coraniques qu'il fait. Non, il ne fait pas d'exégèse coranique. Il n'a rien écrit. Les textes théologiques qu'il a écrits, c'est lorsqu'il était jeune, pour commenter la profession de foi du fondateur de l'almohadisme. Mais il ne fait pas, en revanche, il cite assez souvent le Coran. Alors, dans les textes juridiques, il se réfère au Coran, il est obligé, puisque le Coran est la source première du droit. Donc, il s'y réfère. Dans quelques textes intermédiaires, mais d'ordre plutôt philosophique, j'appelle textes intermédiaires, des textes dont il reconnaît lui-même qu'ils ne sont pas strictement scientifiques, parce que leur audience doit être plus large, que donc il y a quelques zones de flou dans ces textes-là. Il cite le Coran pour appuyer tel ou tel passage, sans doute parce que ça fait partie, enfin sans doute, c'est évident, ça fait partie de la culture commune et c'est une manière pour lui de ramasser large, si vous voulez. Dans les textes strictement philosophiques, là, les références au Coran sont beaucoup, beaucoup plus rares, parce qu'elles sont totalement inutiles pour lui. Ça veut dire une chose simple, c'est que le philosophe entre lui et lui n'a absolument pas besoin du Coran. Absolument pas.
Oui, mais c'est donc un peu une pétition de principe quand il dit que si on comprend en profondeur le Coran, on arrive à Aristote. C'est un peu une vision de l'esprit, ou est-ce qu'il le démontre, ça, justement ?
Alors, il prend des cas, puisqu'il a écrit quand même un texte où il teste en quelque sorte cette hypothèse.
Oui.
Et il la teste assez peu. Évidemment que... On voudrait, puisqu'il a produit un système avec cette idée donc, que rien dans le Coran ne sera laissé, qui ne puisse être lu de façon philosophique. Bon, sur la question de l'intellect, par exemple, c'est délicat. Il sait très bien, vous savez, que l'un des dogmes de l'islam, c'est concerne la vie future. Toute personne qui remettrait en cause l'existence de la vie future serait un infidèle. Et sur les modalités de la vie future, il y a quelques divergences. Mais enfin, le Coran considère qu'il y a une survie ou une recréation du corps. Évidemment, c'est une position qui est absolument indéfendable pour les philosophes. Déjà, Avicenne, à l'époque, l'avait condamné. Pour Averroès, il est évident, un, qu'il n'y a pas de survie ou de recréation du corps, et deux, qu'il n'y a même pas d'éternité personnelle, au sens où votre âme, qui est solidaire de votre corps, ça c'est de l'aristotélisme, périt en même temps que le corps. Donc, pourtant, on voit Averroès essayer de trouver dans le Coran quelque chose qui confirme sa doctrine de l'intellect, qui est d'une certaine manière la doctrine la plus radicale qui soit. Donc on le voit faire de l'équilibrisme un peu. Donc personne ne s'est amusé à tester le cadre averroïste jusqu'au bout. Pour ma part, je dirais que ça ne tient pas. J'aurais tendance à dire que ça ne tient pas. Mais enfin, il a écrit aussi cela, c'est une position de défense. Il écrit au pouvoir pour dire « Vous avez raison de me soutenir, moi, contre vous. Et me soutenant, moi, vous ne faites rien contre l'islam. Au contraire. » Bon, maintenant, il n'a pas, évidemment, prouvé tout ce qu'il disait.
Maintenant, justement, dans le monde islamique contemporain, est-ce qu'Averroès a trouvé une place
On se l'arrache un peu en tous sens, hein, depuis le début du XXe siècle. Donc à l'extrême gauche, à gauche, un peu à droite. Alors c'est à la fois intéressant à lire et pas intéressant du tout, parce qu'on voit qu'on décroche très très vite. Si vous voulez le lire en philosophe sérieusement pour établir exactement ce qu'il a dit, vous voyez bien que l'usage qu'en fait l'islam contemporain est assez loin de l'histoire de la philosophie. Alors s'il s'agit d'entrer dans l'arène pour dire des choses de surface, bon, tout le monde... Alors, ça n'est pas un enjeu crucial, mais si vous lisez ce texte-là, qui est un petit texte, mais qui est tout à fait remarquable, il y a beaucoup à prendre. Il dit des choses qui, à la lueur de ce qui concerne le monde d'aujourd'hui, sont extrêmement fortes, hein, sur le rapport, justement, à la lettre du Coran, comment faut-il le lire, faut-il l'interpréter, le lire à la lettre, jusqu'où doit-on l'interpréter, qui l'interprète, à quel moment, quand s'arrête-t-il, toutes ces questions-là ne sont pas des questions mineures, compte tenu de la place qu'il avait dans l'islam de l'époque. C'est un grand juge qui parle, hein, donc c'était l'autorité suprême. Donc il n'a pas encore la place qu'il mérite, mais parce que il demande peut-être d'être expliqué philosophiquement avant qu'on se l'arrache dans tous les sens.
Oui, monsieur.
Comme médecin à Averroès, comment il vivait la pensée d'Aristote sur le fait que le monde sublunaire n'est pas compréhensible?
Alors... le monde sublunaire n'est pas... Aristote ne dit pas que le monde sublunaire n'est pas compréhensible, c'est-à-dire qu'il y a une part de contingence. Compte tenu de la matière, il y a quelque chose, évidemment, qui fait obstacle à la scientificité totale. Mais quand même, il y a dans le monde des natures. Il y a des choses, ces choses ont des essences, ces essences ont des qualités, des propriétés, et produisent des effets. Donc, même si ces effets seront contrebalancés par la matérialité qui va faire obstacle à telle ou telle opération, ces effets, ils sont quand même scientifiquement approchables. Donc, faut pas se tromper et considérer que le monde sublunaire est absolument hors de portée de la science. Reste que, sur la question de la médecine, le problème n'est pas tellement celui du monde sublunaire, le problème c'est qu'après Aristote, qui était un médecin bon, relativement lointain, d'autres sont venus assez vite, comme Galien, qui était le médecin grec, et qui en vérité sera la grande autorité de la médecine arabe. Sauf que Galien, sur un certain nombre de points essentiels, dit tout autre chose qu'Aristote. Je vous en donne un exemple très très simple, mais pour Aristote, le cerveau n'est absolument pas l'organe de la pensée, puisque l'intellect, pour Aristote, n'a pas d'organe de toute façon, et que le cerveau ne sert qu'à refroidir la température du corps. Évidemment, Galien, assez tôt après lui, dira que le cerveau doit être au contraire distingué, découpé en plusieurs chambres, plusieurs cavités, et que chaque cavité remplit une fonction psychologique précise, et qu'il est traversé d'un souffle psychique qui distribue les puissances de l'âme qui partent toutes du cœur. Bon, cette simple thèse nous fait complètement sortir de l'aristotélisme. Et Averroès, en tant que médecin, suit sur ce point Galien contre Aristote. Mais, disons, là, ils sont plutôt syncrétistes, ils assimilent les deux, considèrent que ça n'est qu'une évolution bienvenue et non pas le renversement total de la parole du maître. Alors que ça l'était, en vérité.
Autre chose ? Oui, monsieur ?
Je vais voir un petit peu l'histoire, justement, de la philosophie, parce que vous avez cité pas mal de philosophes arabes qui ont énormément contribué à enrichir la pensée du Coran. Et puis, si je me souviens bien, il y a une fermeture du canon qui est dans le 12e siècle, je crois. Quels sont les éléments historiques pour le canon qui, justement, ont mis un point d'arrêt à cette réflexion théologique, philosophique, cette pensée de délibération du Coran ?
Alors ça, c'est une question très difficile. Et ça ne concerne pas la philosophie, en vérité. Ça concerne d'abord le droit. C'est à un moment donné ce qu'on appelle l'effort a été terminé. On a quitté la période de l'effort, ou ce qu'on appelle le mujtahid, celui capable de faire effort pour interpréter le texte coranique. Désormais, on considérait que les écoles étaient établies et qu'il ne s'agissait plus de produire de nouveaux corpus pour comprendre et déterminer le contenu du Coran. Donc c'est plutôt l'histoire du droit que l'histoire de la philosophie. Que la philosophie, au fond, vous savez, c'est même une question... peut-être que malheureusement, ça va vous décevoir si c'est la question qui vous occupe le plus, mais d'une certaine manière, il n'est pas malvenu de faire comprendre, de faire entendre, de dire que le souci principal de la pensée arabe n'est pas l'exégèse coranique. Et que, je ne dis pas que c'est ce que vous étiez en train de dire, pas du tout, mais c'est quand même important, c'est que cette affaire de l'interprétation du Coran... certains philosophes s'en sont occupés, mais la fonction du philosophe n'est pas du tout de faire de l'exégèse coranique. Donc c'est un peu un champ parallèle. Alors pourquoi certains l'ont fait plus que d'autres, jusqu'où ils l'ont fait ? Bon, c'était un peu fonction de certains tempéraments. Par exemple, Avicenne, lui, a commenté des versets du Coran. Le verset sur la lumière, par exemple, c'est très beau, ce qu'il écrit là-dessus. Averroès ne l'a pas fait. Alors, du coup, se demander pourquoi à un moment donné la philosophie a arrêté de commenter le Coran, c'est une question un peu mal posée, parce que ça n'a jamais été la fonction de la falsafa, de ce que j'ai appelé la falsafa. La fonction de la falsafa, ça a été l'exégèse du corpus hellénique, corpus grec. Non pas pour lire le corpus pour lui-même, mais parce que se trouvait là l'explication de tout l'univers. Donc ça a été de comprendre l'univers. Évidemment, comprenant l'univers, il s'est agi de se positionner par rapport au texte sacré. Bon. Mais tel quel, l'exégèse coranique n'est pas une branche de la philosophie. Alors, voilà.
Moi, j'ai une question, c'est... Bon, je sais que tu es très souvent extrêmement prudent, c'est peu de le dire, on a pu l'entendre, à toute extrapolation de questions qui sont des questions précises, historiques, et que tu te refuses absolument à instrumentaliser dans des débats auxquels ces questions sont étrangères. Bon, ça c'est, je te connais un peu assez pour le savoir. Mais néanmoins, je voudrais te demander ceci. Sur la question du rapport entre théologie et philosophie qui nous occupe, tu nous as donné l'exemple d'un cas assez singulier, assez particulier, où, si j'ai bien compris, philosophie, bon, ça équivaut au déploiement de l'activité, disons, rationnelle, en gros, au sens le meilleur et le plus élevé, et la théologie, ou le discours sur Dieu qui se pratique et que Averroès, si j'ai bien compris, approuve ou reconnaît, c'est un discours qui s'intègre à cette activité rationnelle en général, c'est-à-dire qui est en quelque sorte, on pourrait dire aujourd'hui, qui est une partie de la philosophie, en tout cas entendue en ce sens du mot. Bon. Et ça s'oppose, comme tu l'as très clairement montré, ça s'opposait à un certain type de discours philosophique qui se développait dans un tout autre cadre et à l'extérieur, et dont l'objet, mais peut-on dire cela, dont l'objet est peut-être plus... directement ou spécifiquement de parler sur ou autour de Dieu, enfin bon, je ne sais pas si ce sont les bons termes, et qui est auquel, dans ce cadre historique que tu as bien défini, Averroès s'oppose frontalement. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que cette idée qu'il naît en quelque sorte de bonne théologie qu'à l'intérieur d'une espèce d'exercice de la pensée rationnelle, et donc de la philosophie entendue en ce sens, est-ce que ça continue après Averroès chez ses héritiers, et en particulier ses héritiers du monde chrétien? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que des gens qui sont plus ou moins héritiers, lecteurs, éventuellement continuateurs d'Averroès, est-ce qu'on peut dire qu'ils auraient défendu la même nécessité d'une intégration du discours sur Dieu au discours rationnel en général, ou bien y a-t-il, et dans quelle mesure et pourquoi, l'idée d'un discours qui aurait une place spécifique, à part, autonome, qu'il faudrait reconnaître pour elle-même, ou pas du tout, je ne sais pas.
Non, c'est-à-dire, c'est simple. Du point de vue philosophique, ce qui caractérise la théologie adversaire, c'est le point de départ. C'est de partir du texte sacré. Donc on fait de l'exégèse, on considère que la donnée première, c'est le texte sacré, et on se place sous ce titre-là, et on explique. Bon, alors pour Averroès, comme pour tous ceux qui se diront averroïstes, il n'y a pas de place, il n'y a aucune place pour une théologie reconnue par la philosophie comme telle, pour une théologie externe. La valeur de cette théologie-là, c'est une valeur religieuse, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la religion. C'est pas la théologie, au fond, c'est de la religion, c'est-à-dire permettre aux gens qui sont incapables de saisir le monde dans sa pureté de ne pas perdre le nord, quoi. C'est ça la chose. La religion est fondamentale. On pourrait, disons, y inclure une forme de théologie si elle n'est pas trop nocive, fondamentale, et là elle est extérieure à l'exercice de la rationalité que le philosophe pratique. Mais sinon, la théologie ne vaut comme discours sur Dieu inscrit, suivant les règles posées par la raison pure, ça c'est sûr. Il n'y a pas de... C'est très simple au sens où Averroès est assez radical et même moqueur là-dessus. Enfin, on peut s'en rendre compte dans la critique qu'ils font du soufisme, par exemple. Lui et ses prédécesseurs andalous. Le soufisme est très puissant à l'époque, et il l'est beaucoup encore aujourd'hui. Alors, pour le coup, si on voulait se placer sur le terrain de l'actualité, et ces hommes-là considèrent que tout ce qui est de l'ordre de l'illumination, tout ce qui est autre que la pratique de la philosophie que eux défendent, ne vaut rien. Ça n'a strictement aucune valeur. C'est-à-dire que tous ces gens qui pensent accéder à quelque chose par ce qu'ils appellent l'illumination, confondent l'exaltation de leur imagination et délirante avec la vérité. Donc le seul chemin vers la vérité, c'est l'étude sévère de la logique et de tout le corpus aristotélicien. Ça prend du temps, il faut des bons maîtres, et puis c'est comme cela. Et dans ce champ-là, certains sont mieux doués que d'autres. Avicenne disait qu'à 18 ans, il avait déjà tout compris, et qu'il était absolument le meilleur, il n'avait plus besoin de livres ou de maîtres, de toute façon, il n'en avait jamais eu besoin. Mais c'est rare. Donc pour Averroès, non, il n'y a pas de place, sinon... celle qu'occupe le discours religieux absolument fondamental.
Et comment tu dirais que ça se joue? Alors ça sort un peu de notre question, mais juste pour nous donner un petit aperçu, puisque on n'en a pas beaucoup, comment tu dirais que ça se joue alors après, chez d'autres aristotéliciens plus tardifs, ou chez Thomas, comment ça se passe?
Ah non, mais ça c'est totalement autre chose.
Bien sûr, c'est ça. Voilà, c'est ça.
Alors, c'est-à-dire, Thomas c'est l'adversaire. Alors déjà, chez les averroïstes même, on va les accuser, les averroïstes, de rationalisme intégral.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que c'est ces gens qui, au fond, ne parlent pas de religion, ils font semblant de prier et de croire, etc. Mais lorsqu'ils écrivent, ils n'écrivent que des choses rationnelles qui ont trait à ce qu'Aristote a dit, tel que Averroès l'a compris. Lorsque vous lisez les textes averroïstes, que j'ai beaucoup lus, c'est même assez beau, parce que vous avez des pages et des pages et des pages qui sont des pages remplies d'Averroès, et puis, d'une certaine manière, ça sonne, et c'est écrit, bon... Évidemment, par la foi, je tiens fermement le contraire. Une ligne. Je ne sais pas, parfois certains rajoutent, je ne sais pas le démontrer par la raison, celui qui le sait, qu'il se réjouisse. Alors, Gilson, par exemple, Étienne Gilson, voyez là l'horreur absolue de l'averroïsme, parce qu'il disait, voilà à quoi nous conduit un système intégralement rationaliste, c'est-à-dire à l'impasse totale, parce qu'il n'est pas fécondé par la théologie. Parce qu'il n'y a pas de théologie, non seulement au-dedans, mais de théologie porteuse qui, en fait, permettrait à la raison de donner le meilleur d'elle-même. Et là, on retombe sur Thomas d'Aquin, très différent d'Averroès. C'est que Thomas d'Aquin, qui valorise considérablement la philosophie et la raison, mais considère que la raison arrivée au bout d'elle-même tend la main, pour parler comme un autre, vers la théologie. C'est-à-dire que c'est la raison elle-même qui se reconnaît impuissante et qui reconnaît comme son complément nécessaire la théologie. Mais ça, ça n'est pas du tout Averroès. Le philosophe arrivé au sommet n'entre pas dans une phase mystique ou dans un, soit dans le mutisme du mystique, soit dans un discours théologique, pas du tout. À ce moment-là, il devient même, ce qui a effrayé beaucoup de lecteurs, il devient même comme Dieu, dit Averroès lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment de confusion avec l'intelligence suprême, maximale, mais qui ne donne lieu à aucune théologie.
Donc, en un certain sens, l'imputation, même si elle était accusatrice, l'imputation de rationalisme intégral, elle est à peu près fondée.
Elle est juste, sauf qu'elle, moi, personnellement, ça je le dénonce, elle a un autre volet, un autre versant, cette affirmation, qui est celle de dire que, puisqu'il est rationaliste intégral, en religion, c'est un hypocrite. Et donc, on accuse l'averroïste de duplicité, de faire mine de croire, alors que par sa raison, il a démontré l'inverse. Or, je ne crois pas du tout qu'il se trouve que l'Occident latin n'a pas connu les textes où Averroès développait ces points-là. Enfin, il ne les a pas connus assez tôt. Or, je crois que la question de la sincérité étant une question extrêmement délicate, mais on peut dire d'Averroès que c'est un penseur musulman, en ce sens qu'il est effectivement convaincu que le Coran est un texte prodigieux, insupérable, indépassable, parce qu'il satisfait tout le monde. Il n'y a pas de meilleur texte pour l'humanité, parce que toute personne peut lire le Coran et s'y retrouver, pardonnez-moi de l'expression un peu triviale, compte tenu des manières qu'il a de voir les choses et de dire oui à ses représentations. Toute personne peut s'y retrouver, du plus bas au plus haut. Et il s'y retrouve non pas finalement en débouchant sur des choses qui sont diverses, ce qui fait que ce serait une fausse communauté, non, chacun par ses moyens et par ses voies à lui finit, sans le savoir pour le plus bas, par s'accorder sur le même monde. C'est ça la thèse. En quoi je crois qu'il n'y a pas, en quoi je crois que ce rationalisme intégral ne doit pas déboucher sur l'idée d'une hypocrisie religieuse.
Il semble que j'ai cru comprendre que vous avez beaucoup parlé de l'union de l'âme et du corps qui naissent et meurent ensemble, mais si tout passe par le raisonnement et que ce n'est pas dans l'expérience qu'on trouve quoi que ce soit, à quoi ça sert l'incarnation?
Ah mais si, ça passe par l'expérience, et bien sûr.
Mais quel type d'expérience?
C'est très simple, lorsque vous naissez, vous êtes un animal supérieur, doté d'une intelligence qui n'est même pas encore formée d'une certaine manière, mais capable de se déployer, et elle ne se déploiera qu'à partir des images que vous vous ferez selon l'expérience que vous aurez des choses. C'est-à-dire que pour Averroès même, il y a une sorte d'empirisme radical. Je n'ai même pas avec les premiers principes logiques. C'est le bébé au premier âge de sa vie, c'est le bébé dans les expériences qu'il fait qui en bâtit sa rationalité. Donc tout dépend des choses que nous rencontrons, des choses que nous sentons, parce que c'est sur la base des traces que laissent dans notre corps, dans notre cœur et dans notre cerveau, que laissent ces choses, que je vais pouvoir conceptualiser. Si vous voulez, il faut exactement concevoir Averroès comme un aristotélicien, en l'opposant strictement à ce qui caractérise Platon pour tous ces penseurs-là, c'est-à-dire la doctrine des idées. Pour tous ces gens-là, il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'universel qui soit séparé du monde.
Ce qui existe, c'est le monde. Et le monde, il est intelligible, il a une structure, mais cette structure, elle n'existe que dans des choses individuelles. Et c'est seulement dans le rapport que j'ai aux choses individuelles par mon corps que quelque chose comme une structure, un noyau intelligible du monde peut se révéler à moi. Donc, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de vérité.
Et donc, l'intelligence universelle, c'est quoi ? C'est l'aptitude ?
L'intelligence universelle, c'est l'intelligible du monde. C'est comme si le monde, dans sa structure, était abstrait et que cette abstraction ramassée en un point était ce qu'on appelle Dieu. Dieu n'est rien que l'intelligibilité du monde. Le monde n'est rien que le déploiement, la dissémination de ce qu'il est dans son unité intelligible. Et le philosophe est philosophé, ça consiste à passer de cet état de dispersion où je rassemble l'intelligibilité des choses dans l'unité de l'universel. Plus je m'unifie, plus je pense. Mais tout passe par le corps.
Mais c'est l'expérience sensorielle et pas l'expérience intérieure.
L'expérience intérieure, elle peut être aussi fondamentale, tout dépend de ce que vous entendez par là, parce que tout ce qui est de l'ordre de la mémoire, de la personnalité, de la
conscience. C'est à ses ennemis, justement. C'est des illuminés, dont il ne veut pas ce type d'expérience-là. Ah. Pour lui, il ne la reconnaît pas.
Non, c'est-à-dire, il considère qu'il ne peut pas y avoir de court-circuit dans le rapport à la vérité. Un court-circuit qui ferait que nous ferions l'économie de l'apprentissage. Il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas de science infuse. Je ne peux pas être foudroyé au prix de quelques pratiques, si vous voulez, par la vérité. La vérité, elle s'abstrait pas à pas.
Elle se conquiert
dans un rapport très paradoxal au monde, parce que finalement, il s'agira d'en sortir. En quoi on retrouve un peu de néoplatonisme, parce que évidemment, tout finit par un décrochage d'avec le corps. Au fond, l'homme maximalement homme, si homme c'est avoir un corps, il ne l'est plus homme. L'homme doit être homme au maximum pour n'être plus qu'intellect. Donc c'est ça l'idée. Mais ça n'est pas dans le mépris, dans l'abandon du corps, c'est dans le jeu du corps au maximum de ce qu'il peut.
Mais alors vous disiez qu'il a très vite été traduit en hébreu et en latin. C'est uniquement à cause de son activité finalement de commentateur d'Aristote, ou est-ce que c'est aussi, il était en dialogue comme penseur avec d'autres penseurs juifs, chrétiens, de son temps, de son vivant ?
Non.
Non.
Non, c'est une chose sur laquelle on fantasme beaucoup, on a peu d'informations, puisque à Cordoue, lorsqu'il est vivant, qu'il écrit et qu'il occupe les fonctions qui sont les siennes, il y a aussi Maïmonide, donc autre grande figure, qui écrit son guide des égarés en arabe, donc il était même très facile pour eux de communiquer. Oui. Donc non, il n'est pas en dialogue, ce sont les traducteurs, c'est le noyau, ça tient à la géographie, à des pratiques socioculturelles de l'époque, mais ça n'est pas lui qui était en dialogue avec d'autres membres de d'autres communautés. Ces rapports ont eu lieu, et ils ont été importants. À l'époque de Farabi, Farabi a eu des disciples qui sont chrétiens, ces échanges ont eu lieu, les traducteurs parfois, pas parfois d'ailleurs, aucun des traducteurs du grec à l'arabe n'était musulman. Ils étaient tous chrétiens ou sabéens, par exemple. Donc il y a eu des choses comme ça, des mélanges. Mais s'agissant d'Averroès, son essor, son succès, ne tient pas du tout à son activité propre. Absolument pas.
Mais pourtant, on s'imagine un homme de dialogue, d'ouverture. C'est un peu l'image qu'on s'en fait, en fait, quand on ne le connaît pas.
D'une certaine manière, il faut se méfier de ça.
Ben oui.
Il faut dire les deux choses à la fois. C'est-à-dire que, comme vous le savez, aujourd'hui, très souvent, à intervalles réguliers, vous allez avoir une couverture de magazine sur l'islam des Lumières. Et à ce moment-là, on va parler d'Averroès. On n'a pas tout à fait tort, au sens où il promeut la raison. Averroès, c'est celui qui dit, vivre, ça consiste à vivre selon la raison. L'homme, il s'agit de devenir un intellectuel, d'une certaine manière, c'est ça ce qu'il dit. Bon. Mais quand on le lit bien, il dit aussi des choses qui sont tout éloignées de l'Aufklärung, ou de la philosophie des Lumières telle que nous la connaissons. Si vous pensez à l'Aufklärung, c'est-à-dire à l'idée que le majeur doit tirer de sa minorité le mineur, l'éduquer, s'adresser à la masse pour l'élever et précisément l'éclairer, bien ça, c'est l'exact inverse que défend Averroès. Averroès, l'aube de la raison, et c'est vrai, est celui qui dit surtout pas de divulgation. Surtout pas. C'est l'erreur la pire que vous pourriez faire. Voilà ce qu'il dit à ses élèves. L'erreur la pire que vous pourriez faire en sortant de mon cours, si vous avez compris l'explication que j'ai fournie d'Aristote, serait d'aller la diffuser, d'aller sur une place ou d'aller en famille en parler. Parce que, encore une fois, si ceux qui vous écoutent ne sont pas philosophes, ce que vous semez, c'est le désordre. Donc, le philosophe n'est philosophe qu'entre philosophes. Sorti de sa classe, il est musulman.
Mais il n'allait pas dialoguer, justement, avec ses homologues juifs et chrétiens, alors que les préoccupations étaient quand même en partie les mêmes, les sujets étaient les mêmes, alors les auteurs étaient un peu les mêmes. C'est ça qui est étonnant, quand même.
Oui. Alors, sur cette question-là, je ne sais pas, parce que je ne sais pas il comment, dans la ville de Cordoue, il n'en parle jamais.
Il n'en parle jamais.
Il critique les chrétiens.
Oui. Et donc, il les connaît, hein.
Il les connaît mal, parce qu'il critique la Trinité. Il dit, bon, ben, la Trinité, c'est l'exemple même de l'échec chrétien, parce qu'ils ont défendu trois dieux, etc. Mais il a une conception de la Trinité qui montre qu'il la connaît assez mal. Mais il faudrait voir comment fonctionnaient concrètement les autorités juives et musulmanes à l'époque dans une ville comme Cordoue. Sur cette question, j'avoue que c'est plus une affaire d'historien, j'avoue, je ne sais pas.
Oui, quelle place, en fait, parce qu'Aristote donne une place importante à l'éducation, donc de l'enfant. Également, je ne sais pas si on peut parler d'éducation, mais peut-être aussi du citoyen, c'est-à-dire qu'un citoyen ne peut pas être un bon citoyen s'il n'est pas dans un contexte d'une société et d'une politique qui lui permet. Et donc, Avicenne, est-ce qu'il considère, ou peut-être qu'il ne se pose pas la question, mais alors il faut quand même bien défendre cette position, est-ce qu'il considère qu'il y a une intelligence, alors apparemment non, pas tout à fait, de naissance, ou est-ce qu'il y a une place vraiment dans l'éducation? Et alors à ce moment-là, s'il y a une place dans l'éducation, il n'est pas question effectivement d'aller diffuser un savoir, une vérité sans permettre de l'entendre, mais de même que ces mêmes personnes entre eux sont devenues philosophes et ont fait un cercle de philosophes, est-ce qu'il n'est pas possible pour tous d'avoir cette éducation et donc après
une dernière réponse?
Alors il y a les deux. Non, si c'est clair.
Notre séance.
Alors il y a les deux déjà. C'est d'abord une affaire d'inéisme, si vous voulez. Vous naissez, c'est ainsi. Vous naissez mieux doué que d'autres. C'est une affaire, dit Ibn Bajjah, le prédécesseur andalou d'Averroès, c'est une affaire de mélange. Ça tient à votre complexion, à vos humeurs. C'est d'abord ça. Donc vous naissez avec un corps qui est mieux doué que d'autres. Mais c'est aussi une affaire d'instruction. C'est-à-dire le mieux doué, s'il est provincial, s'il est paresseux, s'il est dépravé, s'il n'a pas de bon maître, s'il n'étudie pas, il ne donnera rien. Donc on peut tout à fait échouer, alors même qu'on est bien doué. D'où l'importance de l'étude, de l'entourage, et d'une vie droite, d'une vie assez morale, etc. S'agit-il maintenant d'éduquer le maximum de gens, de s'ouvrir au maximum de gens? Alors Avicenne, vous en avez parlé, était sensible à ça. Il y a une petite note d'espoir. Oui, vous aviez parlé d'Avicenne aussi.
Parce que vous avez dit Avicenne. Tu as dit Avicenne.
Je pensais à Aristote.
Bon, mais quand même, je vous dis un truc sur Avicenne, au passage. Parce que Avicenne, qui est lui aussi pour un partage entre élite et foule, a une petite note d'espoir en disant « On peut penser quand même que des gens de la foule réussissent à se hisser sur l'échelle et que quelque chose, pour certains, sera possible. » Enfin, globalement, on ne change pas de camp. Donc, est-ce qu'il faut s'ouvrir aux autres? Oui, il faut repérer, c'est le sens de la bonne cité. Et là, il lit Platon, puisqu'il ne lit pas les politiques d'Aristote. Il faut repérer les jeunes philosophes. Il faut les repérer. Il y a une anecdote très célèbre où on lui présente le très jeune Ibn Arabi, qui avait 14 ans à l'époque, alors que lui en a 50, et on le lui présente en lui disant, lui, c'est un génie comme toi, vous allez vous comprendre. Et ils ont eu ce dialogue où Averroès regarde le jeune de 14 ans, il lui dit oui, l'autre lui dit oui, et puis l'autre lui dit oui, et puis il dit non. Et là, ils se sont séparés, et il paraît qu'Averroès a été pris de tremblement, il a été effrayé en voyant ce qu'il venait de voir. Bon, alors on peut l'interpréter de différentes façons, mais en tout cas, on se soucie d'aller chercher des jeunes philosophes, mais parfois ça rate. Parfois on tombe sur un soufi. En tout cas, il faut faire très attention de ne pas mal diffuser l'éducation.
Grand merci, grand merci. Moi, vraiment, merci. Tout à fait inspirant. Donc, merci pour cette belle soirée que vous nous avez offerte. Et donc, nous nous retrouvons avec Denis avec un petit sujet. Une réflexion sur le temps à partir du livre 11, donc des Confessions de Saint-Augustin. C'est une page absolument, je dirais, en même temps d'une profondeur philosophique qui me dépasse de 4,5 km, mais en même temps, c'est une page avec un souffle, je dirais, c'est une des plus belles pages de la littérature universelle, donc voilà, on se retrouvera autour de cela, avec toujours cette pensée donc, du philosophe et théologien Averroès. Merci beaucoup.
Merci.
Thank you.